Radio Okapi.
À l'entame de ce journal sur Radio Okapi FM, nous mettons l'enfant congolais et ses droits au premier plan de Kisangani. À Bunia, nous vous décrivons la vie des enfants, leur scolarité et autres droits leur reconnus. C'est en marge de la commémoration ce 16 juin de la Journée internationale de l'enfant africain. Sécurisation décide de déplacer la protection de ces vulnérables en situation difficile et surtout leur retour dans leur milieu de vie, particulièrement dans le Massissi. Nous en parlons dans ce journal avec le président du comité des suivis de l'acte d'engagement pour la paix et la cohésion intercommunautaire. Radio Okapi focus sur la promotion des droits humains et des enfants. Nous recevons en fin du journal professeur ordinaire Roger Kitasomba, notre invité, directeur exécutif de la Fondation Dina pour la paix, pour un plaidoyer en faveur d'environ 80 enfants expulsés dans le Rutshuru d'un centre de formation désormais en errance et exposé aux bévues. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Okapi pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 16 juin, c'est la Journée internationale de l'enfant africain. En RDC, dans la province de la Tchopo, il s'avère que plus de 2179 élèves ont été contraints d'abandonner les études et une dizaine d'écoles fermées dans la commune urbano-rurale de Lubunga. Pour cause, le conflit intercommunautaire Mbole-Lengola. Ceci ressort de la journée scientifique organisée ce samedi par le Centre de recherche interdisciplinaire pour le développement et l'éducation de l'Université de Kisangani. C'est en marge de la célébration ce dimanche de la Journée internationale de l'enfant africain. Pour les organisateurs de cette journée scientifique, les efforts doivent être mutualisés en vue d'asseoir la culture de la paix dans cette entité. Un reportage de Jacques Mokonkole.
Chercheurs, professeurs, étudiants et autres personnels scientifiques du CRID ont pris part à cette journée scientifique. Objectif, réfléchir sur les stratégies à proposer aux décideurs afin de permettre aux élèves de regagner le chemin de l'école l'année scolaire prochaine. Professeur Norbert Ngoyimwepu.
L'éducation pour tous nous recommande de faire un minimum d'éducation de qualité pour chaque enfant, même en contexte de conflits où les enfants sont les plus traumatisés, les plus fragilisés et qui vivent dans la prison. À la veille de la nouvelle année scolaire, qu'on puisse penser les plaies de ce qui s'est passé.
Le conflit Mbole-Lengola et leurs alliés a engendré des conséquences néfastes sur la scolarité des enfants. Rex Bongala, directeur des études à l'Athénée de Kisangani.
Il y a beaucoup d'écoles fermées, même 11 écoles au centre de Lubunga. Par rapport au nombre des enfants ayant abandonné les études, nous avons plus de 2179 élèves.
Afin de ne pas sacrifier l'avenir de ses enfants, l'État congolais est appelé à jouer pleinement son rôle. Professeur Dieudonné Kaboudri.
C'est que le politique puisse se mettre en branle pour étudier comment garantir la sécurité scolaire, la sécurité à nos enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas rentrer à Lubunga aussi longtemps qu'ils n'ont plus des parents ou on continue à tuer les gens là-bas.
Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Cap.
En rapport toujours avec cette célébration de la Journée internationale de l'enfant africain, nous poursuivons notre série de reportages sur les enfants à Bunia dans la province de l'Ituri. En effet, dans la ville de Bunia, des centaines de filles mineures parmi les enfants déplacés qui traînent dans les rues en sont victimes des violences sexuelles dans leurs différents campements. Ces filles sont parfois abusées sexuellement par d'autres mineurs dans des chantiers abandonnés qui leur servent d'abri. D'autres personnes profitent de leur vulnérabilité en échange de certains avantages pour commettre ce crime. Ezekiel Mouzali a rencontré quelques-unes sur le boulevard de la Libération qui décrivent leur vie dans ce reportage.
La prise en charge des jeunes filles ainsi que des adolescentes dans les sites de déplacés, notamment Kigonze et ISP Bunia, reste un véritable calvaire. Au moins chaque jour, des centaines d'enfants filles quittent le site la journée et se déversent dans la ville. Certaines adolescentes passent nuit avec des garçons, soit dans des caniveaux, des chantiers d'habitation abandonnés sur la chaussée ou soit dans des maisons de fortune. D'autres fréquentent des adultes ou des jeunes à risque qui abusent d'elles moyennant une somme dérisoire d'argent. témoignage.
Beaucoup de filles ont déjà quitté le site dans des conditions de vie difficiles. Beaucoup de jeunes filles du site sont déjà abusées sexuellement. Ce que je peux demander aux autorités, c'est de voir comment aider les filles déplacées installées sur le site.
Cette situation affecte de nombreux habitants qui déplorent des cas de grossesse et des mariages précoces parmi ces filles. L'un d'eux, John Ramazani, activiste des droits des enfants en Ituri.
Ces enfants sont marginalisés à un niveau où on ne parvient pas à comprendre. Ce sont nos enfants. Demain, s'ils vont constituer des bandes de Kuluna et des bandits armés, c'est nous-mêmes qui serons des victimes.
Des organisations de défense des droits des enfants en province demandent à l'État congolais d'appuyer des initiatives d'encadrement de ces enfants abandonnés à leur triste sort. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Droits des enfants, encore et toujours à Ituri, cette fois-ci, santé avec cette bonne nouvelle. Presque tous les enfants des 0 à 5 ans ciblés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite ont été atteints même dans les zones insécurisées. Constat fait par le programme élargi de vaccination à Ituri à la clôture de cette activité. Selon son responsable, la récupération des enfants pour le vaccin BCG contre la tuberculose dont le stock était épuisé depuis au moins 2 mois se poursuit dans toutes les entités à Ituri. Isaac Rémoupé nous en parle.
Environ 1 400 000 enfants devraient être vaccinés contre la poliomyélite en Ituri. Selon les responsables des programmes élargis des vaccinations PEV, les vaccinateurs ont été déployés dans toutes les zones de santé, même dans les milieux où la situation sécuritaire est encore précaire, notamment vers Biakato, Mbijo, Yedi, Tchabi, dans les territoires de Djougou, Mambasa et Irumu. Docteur Alain Aveba précise qu'aucun incident n'a été enregistré pendant la campagne, dont le but est de prévenir contre cette maladie qui rend infirme et détruit l'avenir des enfants. Il salue également la collaboration des parents dans toutes les localités où aucune résistance liée à la culture ou croyance religieuse n'a été signalée. Cette campagne a été couplée avec les vaccins contre la tuberculose BCG pour les enfants, déclare le programme élargi de vaccination. L'administration de cet antigène se poursuit dans toutes les structures sanitaires publiques pour la récupération de tous les enfants nouveau-nés. La plupart n'ont pas été vaccinés pendant les premiers trimestres de cette année suite à la rupture des stocks sur toute l'étendue de la province, renseigne la même source. Elle ajoute que ces vaccins BCG est disponible pour 3 mois. Il encourage tous les parents dont les enfants n'ont pas été vaccinés de ces AT pour bénéficier de ces vaccins contre la tuberculose dans cette province où on enregistre de nombreux cas chez les adultes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le gouvernement de Mme Judith Suminan doit rapidement mettre hors d'état de nuire l'ennemi afin que les déplacés qui sont dans et autour de Goma regagnent leur village. Voilà l'une des recommandations à l'issue des assises de 2 jours tenues à Goma. Un forum axé sur la problématique de la sécurisation des sites des déplacés. Ont pris part à ces journées de réflexion les membres du Conseil provincial de sécurité du Nord Kivu, les commandants des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, les leaders et notables du territoire de Masisi, également les représentants des déplacés internes. Thomas Dakin Mwiti, président du comité de suivi de l'acte d'engagement pour la paix et la cohésion intercommunautaire en territoire de Masisi, reprend ici quelques constats et recommandations. Il est joint par Chris Mukand.
Tous nous avons été unanimes sur certains points, notamment la délocalisation des hommes en armes de sites de déplacés. Il y a des déplacés qui ont construit sur la route, d'autres qui entretiennent des marchés sur la route. Et cela fait que des accidents de circulation se commettent du jour le jour, alors qu'il faut mettre ces populations-là à l'abri de tous ces accidents. Et donc, nous allons voir comment on peut délocaliser toutes ces maisonnettes-là de déplacés qui sont construites sur la route. Parmi les éléments qui causent l'insécurité dans le camp, c'est l'installation de l'artillerie à quelques mètres du camp des déplacés. Le nouveau gouvernement de Mme Sinua doit se mettre pour éloigner l'ennemi, le mettre hors d'état de nuire, permettre aux populations de rentrer dans leur village. La conséquence de la fin de la guerre, c'est de permettre aux populations civiles qui sont dans les camps de rentrer chez eux.
Notons que la tenue de ce dialogue a bénéficié de l'appui de la MONUSCO à travers sa section des affaires civiles également de l'ambassade helvétique. Nord Kivu, encore plus de 40 camions de marchandises en provenance du territoire de Beni sont bloqués depuis 3 semaines à Kanyabayonga. Impossible pour eux de se rendre à Kiwanja, Goma et d'autres entités de la partie sud de la province sous occupation des rebelles du M23. Ces camions transportent des planches, huile de palme et autres produits de première nécessité. Tout en saluant l'impact de la présence des FRDC et des casques bleus de la MONUSCO qui a permis de repousser l'ennemi loin de la cité. Les conducteurs de ces camions plaident cependant auprès de ces deux forces pour des escortes afin de leur permettre de joindre leur lieu de destination. Eric Bahati Kasanga, un des chauffeurs, est au micro de Marc Marofimbo.
Nous étions arrivés ici en voulant traverser, continuer avec notre voyage. Les militaires nous ont interdit le passage. Depuis 3 semaines que les affrontements ont commencé dans cette région, nous sommes toujours là. Quand les affrontements ont commencé, les forces de la MONUSCO sont arrivées. L'ennemi était déjà à la porte de la commune, dans les localités voisines. Mais lorsque les forces de la MONUSCO sont arrivées, elles ont donné un coup de main à l'armée et ensemble, ils ont réussi à chasser l'ennemi. Depuis la présence de la MONUSCO ici, on respire un peu. Nous voulons que ce soit pareil pour les dossiers de la route. Nous nous battons pour avoir les passages pour Kiwanja, Goma et d'autres entités de la région, mais en vain. Les autorités ne nous disent rien du tout. Nous supplions qu'on nous ouvre les passages. Les membres des familles, surtout nos enfants, souffrent de la famine. Nous également ici. Tout ce que nous avions comme petit stock en vivres sont épuisés et nos patrons refusent de nous envoyer même de l'argent. Comment nous allons vivre ici? Que les autorités militaires nous aident à traverser la zone pour arriver à Kiwanja où se trouvent les membres de nos familles.
Contacter les autorités militaires à Kenya Bayonga déclare que les opérations contre les rebelles du M23 sont encore en cours. Dès lors, aucun mouvement des civils n'est autorisé pour le moment dans la zone. Nous restons dans la même région où la société civile du secteur de Rwenzori est préoccupée par l'arrêt des travaux de modernisation de la route Beni Kasindi Butembo qui exécute l'entreprise indienne Dutch Service Limited. Selon son président, c'est depuis 2 mois que les travaux n'évoluent plus normalement. De son côté, le contrôleur des travaux Dutch Service Limited promet la reprise des activités dans les prochains jours sans plus de détails. André Kitenge.
C'est depuis 2 mois que les travaux de modernisation de cette route qui relie la RDC à l'Ouganda en passant par la cité frontalière de Kasindi-Lubiria sont à l'arrêt, indique la société civile du secteur de Rwenzori. Selon Ricardo Rupande, son président, rien n'a été fait depuis le début des travaux.
Les travaux ont été stoppés il y a de cela à peu près 2 mois et personne ne sait pourquoi. Qu'il n'y a pas de travail qu'on peut voir aller ni sur cette route. Donc aujourd'hui, rien n'est fait. On recommande au gouvernement congolais de changer d'entreprise et de pouvoir prendre une entreprise plus ou moins sérieuse.
Le contrôleur des travaux de l'entreprise d'autres services parle lui d'un arrêt momentané des travaux. Il ajoute que l'entreprise est déterminée à reprendre les travaux sous peu après le règlement de certaines clauses du contrat entre le gouvernement congolais et ougandais. Steve Nyemwe.
Parmi les clauses signées, quelque part, certaines clauses ne sont pas respectées. Et l'entreprise se trouve dans l'obligation d'arrêter momentanément les travaux avant que d'un côté, les choses s'arrange. L'entreprise est déterminée à reprendre les travaux.
Des travaux qui devaient être financés à hauteur de 60% par l'entreprise indienne Dutch Service Limited basée en Ouganda et 20% par chacun des deux gouvernements congolais et ougandais. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Tenke Fungurume Mining certifié le 12 juin dernier COPMAC. Cette certification repose sur l'évaluation des mines et des fonderies afin de vérifier que chaque installation répond aux exigences de pratiques de production responsables. C'est en termes de gestion de l'environnement et de ses responsabilités sociétales. Pour ce géant minier, c'est pour la première fois qu'une entreprise minière africaine reçoive cette reconnaissance qui en fait va le stimuler à faire plus. On écoute Hugo Siza, directeur général adjoint de TFM en charge des relations extérieures au micro de Jean Gandou Kabongo.
C'est une bonne nouvelle, non pas seulement pour TFM, mais c'est une bonne nouvelle pour le pays, parce que c'est la première société minière en Afrique d'être certifiée COPAMAR par rapport à ses pratiques responsables en termes de production, en termes de gestion de l'environnement, des responsabilités sociétales. Et cette certification n'est pas une certification qui est décrétée d'office. Ça veut dire il y a une organisation tierce, indépendante, qui mène des enquêtes et des investigations rigoureuses sur base de certains paramètres et qui arrive à pouvoir certifier. C'est une bonne nouvelle pour les pays, pour l'industrie minière, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a des gens qui ont tendance à peindre un tableau noir par rapport à l'industrie minière, mais qu'il faut apprendre aussi à raconter de belles histoires. Et ça, c'est une belle histoire pour le pays. Et nous, TFM, donc, nous sommes fiers d'être le modèle et nous allons continuer donc à consolider les bonnes pratiques dans ces domaines-là.
Autre nouvelle, dans le monde musulman ce dimanche 7 juin, on célèbre la fête des Tabaski, dite des moutons. Dans le Maniema, le chef d'entité islamique appelle les musulmans à ne pas considérer cette fête comme une habitude, mais de chaque fois faire une introspection pour, tout en comparant leur vie vis-à-vis aux Saintes Écritures à l'occasion de cette journée de partage. On écoute Mohamed Moulumbi, chef d'entité islamique du Maniema à l'intérim, au micro de Florence Kizalonga.
Comme vous le savez, la fête de Tabaski, c'est parmi les deux grandes fêtes des musulmans. Et partout au monde, on célèbre cette fête en mémoire de notre père des croyants, Saïdina Abraham. Mais pour nous, parce que c'est connu, chaque année nous célébrons cette fête, mais l'essentiel pour nous, c'est de tirer des leçons par rapport à cet acte de dévotion qu'a posé notre prophète. Quelles sont les leçons à retenir? Nous en avons retenu deux. D'abord, c'est par rapport à l'amour qu'a voulu montrer Abraham vis-à-vis de son Dieu. Donc il a mis l'éternel Dieu au-dessus de toute autre considération. Donc il était même prêt à sacrifier son fils pour l'amour de son créateur. Et la deuxième leçon, c'est par rapport aux engagements. Abraham avait pris l'engagement, une fois avoir un enfant, il était prêt à sacrifier cet enfant. Donc nous, dans notre vie, nous devons aussi respecter les engagements que nous prenons. Nous appelons tout croyant musulman de se conformer aux habitudes de notre prophète. Les musulmans sont appelés à immoler. Ceux qui en auront les moyens, quand ils vont immoler, ils vont faire trois tas, un tas pour la famille, un tas pour les voisins, musulmans ou non, et un tas pour la grande famille.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, une étude pilote fait appel à des guérisseurs traditionnels pour le dépistage du VIH. Cette initiative a pour objectif d'encourager un plus grand nombre de personnes, en particulier les jeunes, à passer le test et à rechercher un traitement médical si nécessaire. Elle intervient dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation et la réticence des personnes à se soumettre à un test de dépistage au VIH.
L'invité.
L'invité, c'est le directeur exécutif de la Fondation Dina pour la paix. Dans un entretien avec Radio Okapi, cet acteur s'inquiète du sort des 83 enfants expulsés vers le territoire des Rutshuru du centre des formations professionnelles de cette organisation basée à Goma. Ces enfants, dont la plupart sont orphelines et victimes des violences sexuelles, vivent actuellement en errance dans les villages et attendent leur retour pour parachever leur formation. Professeur Roger Kitasomba s'entretient avec Gabriel Ouamenia.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Monsieur le professeur, où en est-on avec le procès des 83 enfants, oui, victimes de violences sexuelles, procès qui était dans une juridiction ici dans le Nord Kivu?
C'est un événement triste, hein. Les enfants, quand il y a eu Covid, le gouvernement avait décidé pratiquement de fermer tous les centres d'hébergement des enfants, etc., des internats, en 2020. À cause de Covid, on a envoyé les enfants à chez eux, en fait, disons, les villages. La plupart de ces enfants-là sont des orphelines. Hein. Mais, arrivés là-bas, les enfants devaient rentrer 2 ou 3 mois après, quand le gouvernement a décidé que non, vous pouvez reprendre les activités. Ils devaient reprendre ici, revenir à Goma. Et les 83 enfants, ils ont été jusqu'ici, on leur a refusé l'entrée au centre, retour au centre. On va demander pourquoi. Bon, il semble que notre pas, il semble. Au niveau du centre ici, la directrice qui était chargée de ça va dire non, les enfants ont porté plainte contre elle et se sont plaints.
Ces enfants étaient en procès contre qui?
Ils étaient en procès contre la directrice du centre pour dire que non, nous avons droit à l'éducation. On a fermé momentanément, on devait rentrer pour poursuivre l'éducation, disons la formation. Et c'est cela les objectifs du centre. Mais quand on les avait refusés, nous avons cherché tout moyen pour les héberger ici, pensant que ça va passer. Mais même ici, ces enfants ont été déportés de force. Quitter les centres d'hébergement que nous payons, moi personnellement que j'ai payé, je louais pour ces enfants-là. J'étais en pâture au niveau de Rutshuru.
Avez-vous porté votre voix aux autorités compétentes du pays pour obtenir gain de cause, monsieur le professeur?
Oui, non seulement au niveau des justices, même au niveau des autorités administratives, nous avions alerté tout le monde. D'abord, les centres d'hébergement, là, c'est pour les enfants. Et ces filles-là, congolaises, victimes, vulnérables, la plupart orphelines, nous avons pris ces enfants, on ne les a pas adoptés, hein, mais ce sont des enfants à qui nous avons pris la charge par sens humanitaire à donner cette éducation-là, de tel ou tel métier. C'était cela les ambitions que nous avions.
Quel est votre souci actuellement par rapport à l'avenir de ces enfants?
Non, le souci continue, puisque dès mai 2020, quand les missionnaires convaincus de ce qu'il avait, il a coupé le financement carrément, et nous avons pris ça en charge. Et pour ça, vraiment, je remercie. Moi, je ne suis qu'un professeur d'université. Vous savez, notre salaire de fonctionnaire, ce n'est pas gros. Mais c'est avec ça que j'essaie de prendre en charge ces enfants, 83 enfants, plus une nonantaine, 90, peut-être moins, aussi que vous. Le programme de gratuité d'enseignement, ça nous a aidé énormément. J'ai dit à ces enfants, quand ils sont rentrés dans les villages, de se mettre dans les écoles conventionnées, de se mettre dans les écoles publiques où il y a gratuité, où l'intervention sera minime. Et grâce à ça, je vous assure, j'ai pris charge de ces enfants-là pour des choses, pour souvent, non, le Minerval, il n'y a pas de Minerval, mais il y a des frais qui demandent autres que l'État ne paye pas. Il y a les cahiers, par exemple, pour tout, il y a les uniformes, il y a surtout les tests, au niveau de ce primaire, quand ils terminent, au niveau des D6, etc., etc., où j'interviens depuis 3 ans maintenant.
Par vos propres moyens?
Oui, c'est par mes propres moyens.
Actuellement, professeur, vous encadrez combien d'enfants à travers le pays?
On était plus ou moins à 200. Cela, c'était au niveau de Sud Kivu et Nord Kivu. Mais maintenant, avec le centre que nous venons de constituer maintenant, nous sommes à plus de 2000 centres à travers le pays. Et l'esprit et l'innovation, ça consiste à dire que non, amener les Congolais à produire. Tout ce qui est métier productif a été abandonné par les scolarisés.
Comment vous pensez équiper tous ces centres, plus de 2000 centres?
Nous essayons de récupérer tous ceux qui sont déjà dans la production. C'est ça l'avantage que nous avons. Un monsieur qui a une petite unité de production, qui encadre une dizaine de gens et qui a sa petite technologie de routine, la simple, mais c'est une unité de production.
Oui. Quelles sont les filières que vous organisez dans ces centres-là?
Toutes les filières. Ça signifie ça. Il y a l'agriculture, il y a même au niveau des bureautiques, il y a la construction, il y a pratiquement toutes les formes de métiers. Mais nous allons focaliser essentiellement pour tout ce qui se fait au niveau de l'artisanat, où il y a des jeunes gens qui produisent. C'est ce qui nous intéresse.
Professeur Kibasomba, je vous remercie.
C'est la fin de cette édition vespérale sur Radio Okapi, dans une prise de son de Billy Landry Betou, présentation de Billy Yvan Lutumba, journal préparé par Jacques-Yves Molima, Jude Mister Bilanda et l'ensemble de toute la rédaction. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir été des nôtres. Place maintenant à la partie interactive du sport avec Anish Mukungo.